Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Christian-Georges Schwentzel. Je suis ravi de vous accueillir ici à Mola pour ce livre que vous venez de faire paraître tout récemment sur les Nabatéens, 4e siècle avant notre ère, 2e siècle après chez Talendier. Alors, Christian-Georges Schwentzel, vous êtes professeur des universités à l'Université de Lorraine. Vous êtes un spécialiste de l'Orient hellénistique, des monarchies hellénistiques, mais pas seulement les monarchies, on va dire, les plus connues, celles auxquelles on pense quand on pense Orient hellénistique, les Lagides, les Séleucides. Vous êtes aussi beaucoup intéressé à ce qu'on pourrait appeler les petites monarchies hellénistiques ou les monarchies ethniques. J'entends par là les Asmonéens, les Nabatéens, qui étaient d'ailleurs l'objet de votre habilitation à diriger des recherches publiées en 2013. Vous avez écrit des biographies de plusieurs des souverains de ces régions, Cléopâtre en particulier, mais aussi Hérode le Grand. Et vous revenez aujourd'hui donc avec un livre sur les Nabatéens, dans lequel vous revenez, dans le prolongement de ces études, sur cette société, cette civilisation à la fois bien connue, en tout cas par certaines images fortes qu'elle a laissées, et peut-être moins connue en réalité dans son détail. Vous y revenez après des publications qui vous avaient un peu écarté de cet univers et qui s'intéressaient plus au dialogue entre l'histoire ancienne et contemporaine. Je pense en particulier à votre livre sur la fabrique des chefs en 2017 ou sur votre manuel du parfait dictateur consacré à César en 2021. Mais cela étant, à lire votre bibliographie, on sent bien que ce livre s'inscrit dans une continuité d'un intérêt pour cette région, pour ces monarchies, et peut-être du coup, dans un premier temps, j'ai envie de vous demander pourquoi ce désir de revenir sur les Nabatéens, pourquoi cette volonté d'écrire à nouveau un livre sur eux, un peu plus qui brasse peut-être un peu plus largement leur histoire que ce que vous aviez fait jusque-là.
Parce que c'est mon éditrice d'ailleurs qui m'a fait remarquer très justement il y a déjà quelques années que ce livre n'existait pas, c'est-à-dire que il y a de nombreuses publications archéologiques très précises sur Petra, plus récemment aussi sur Hégra en Arabie Saoudite dans l'oasis d'Aloula, mais pas de grande synthèse véritablement historique. Et donc j'ai voulu écrire l'histoire des Nabatéens à travers cet ouvrage, à travers cette grande synthèse qui manquait, me semble-t-il, jusqu'à présent.
Alors effectivement, ce qui est intéressant, c'est que vous y proposez un tableau qui va du début, entre guillemets, je vais revenir sur ce début, jusqu'à la disparition de cette civilisation nabatéenne. Et pour la situer peut-être un peu chronologiquement, pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément très, très familiers, et donc en partant de ce qui est en fait la deuxième partie du livre, est-ce qu'on pourrait revenir sur la constitution de ce royaume qui, vous le montrez, apparaît d'un coup d'une certaine façon dans les sources à un moment très particulier de l'histoire de cet Orient hellénistique, à savoir le moment où les héritiers d'Alexandre le Grand, ce qu'on appelle les Diadoques, commencent à se déchirer et à se tailler des royaumes dans les restes de son empire.
Oui, les Nabatéens apparaissent dans l'histoire pour la première fois dans les années 312-311 avant notre ère. Et donc là, c'est Diodore de Sicile, hein, l'historien grec du 1er siècle avant notre ère, qui nous raconte cette entrée des Nabatéens dans l'histoire à l'époque, comme vous l'avez dit, des Diadoques. Alexandre le Grand a réalisé la conquête de l'Empire perse, de l'Orient méditerranéen, puis du Moyen-Orient, il est allé jusqu'au nord de l'Inde, et à un moment il est passé à Gaza, et qui était le port des Arabes et des Nabatéens, d'où les Arabes exportaient les aromates vers l'Occident. Et là, il s'empare d'une grande quantité d'aromates et se rend compte de l'extraordinaire richesse des Arabes. Mais à ce moment-là, sa priorité, c'est d'envahir l'Égypte et puis ensuite de mettre fin à l'Empire perse achéménide. Il n'a pas le temps de s'attaquer à l'Arabie. Il en a sans doute formé le projet, mais il meurt prématurément à Babylone en 323. Et donc, ce sont ces Diadoques, l'un de ces Diadoques, comme on dit, c'est-à-dire un des successeurs d'Alexandre, Antigone le Borgne, qui va tenter de s'emparer de Petra. Et c'est là que Petra, d'ailleurs, la capitale des Nabatéens, dans le sud de la Jordanie actuelle, est nommée pour la première fois en grec par Diodore de Sicile. Ça veut dire « la roche ». Parce que c'est là, dans cet univers rocheux, une sorte de forteresse naturelle, entourée de montagnes, avec des falaises parfois tout à fait vertigineuses, que les Nabatéens cachent leur richesse, une richesse qu'ils tirent de ce commerce des aromates. Ils sont très, très riches. Et donc, Diodore nous raconte que le diadoque Antigone le Borgne tente, avec son armée gréco-macédonienne, de s'emparer de ses richesses, mais il échoue. Il échoue lamentablement. Il envoie ensuite son fils, le fameux Démétrios Poliorcète, qui est pourtant surnommé Poliorcète, le preneur de ville, et qui, lui, à son tour, va échouer une seconde fois. Et c'est vraiment c'est l'acte de naissance, on pourrait dire, historique des Nabatéens. Ils ont réussi à conserver leur indépendance. Ils ne seront jamais intégrés dans un royaume hellénistique. Il va falloir attendre l'impérateur Pompée, c'est Pompée dans la fin des années 60 avant notre ère, qui va soumettre les Nabatéens. Les Nabatéens perdent alors leur indépendance. Mais c'est un royaume, alors c'est une royauté que j'ai qualifiée d'ethnique, comme vous l'avez dit dans mon habilitation, une royauté ethnique, parce que les Nabatéens sont considérés comme un ethnos, c'est-à-dire, dans le langage officiel, notamment de la royauté séleucide, on distingue les populations grecques arrivées en Orient après les conquêtes d'Alexandre le Grand, des ethnos ou ethnées au pluriel, c'est-à-dire des populations qui vivaient là avant la conquête gréco-macédonienne. Donc les Juifs, les Nabatéens sont des ethnos ou des ethnées, si on veut employer le pluriel grec. Ils ont leur tradition, leurs coutumes, leur religion, leur divinité, et ils sont antérieurs à cette conquête d'Alexandre. Et on a là donc une monarchie ethnique, c'est-à-dire qui se définit comme une royauté nabatéenne, avec des souverains qui se succèdent a priori de père en fils, et qui appartiennent toujours, comme le dit l'auteur antique Strabon, ce géographe du 1er siècle avant notre ère, enfin de l'époque de l'empereur Auguste, ils appartiennent toujours à un même génos, c'est-à-dire à une dynastie par le sang, une dynastie considérée comme très prestigieuse et vénérée par la population. Et ils se définissent comme nabatéens, c'est ce qu'on voit très bien sur les monnaies ou dans les inscriptions nabatéennes retrouvées. Ils sont rois des Nabatéens ou reines des Nabatéens, puisqu'il y a également des reines dans cette monarchie ethnique. Alors ça, c'est une différence avec la Basileia, la royauté gréco-macédonienne, qui n'apporte jamais de définition ethnique ou territoriale. Alexandre le Grand, et Basileus tout court, les Ptolémées, les Séleucides également. Là, on a vraiment, dans la titulature officielle de ces rois, cette dimension ethnique que l'on retrouve d'ailleurs chez les Asmonéens également.
Alors, vous avez évoqué déjà quelques étapes intéressantes et la problématique des sources. J'aimerais, avant de mentionner ces sources très intéressantes sur l'histoire des Nabatéens, revenir un peu sur la continuité de cette histoire nabatéenne. Vous avez évoqué la conquête de ce royaume par les Romains sous l'action de Pompée le Grand en 63. Mais ce qui m'a intéressé à vous lire, c'est aussi la façon dont, avant cette conquête, ce royaume survit, se développe jusqu'à atteindre son expansion territoriale maximale dans les années 80, indiquez-vous, et comment il le fait à la lisière de deux grands empires, l'Égypte l'Agide, l'Égypte de Ptolémée et l'Empire Séleucide, en jouant l'un contre l'autre d'une certaine façon, en ayant une politique tout à fait intéressante, plutôt favorable aux Lagides.
Oui, exactement. Alors, il y a eu au moins deux grandes crises entre les Nabatéens et les Ptolémées, à l'époque de toute évidence de Cléopâtre III, quand les Ptolémées ont cherché à développer la navigation en mer Rouge et ont voulu contourner le royaume nabatéen, et ensuite à l'époque de Cléopâtre, Cléopâtre VII, la fameuse Cléopâtre, qui a demandé à son amant Marc-Antoine de lui donner un certain nombre de territoires du royaume nabatéen. Donc là, il y a deux périodes de crise entre les Ptolémées et les Nabatéens. Mais de manière générale, à l'exception donc de ces deux périodes de crise, les Nabatéens sont plutôt du côté des Ptolémées contre les Séleucides qui font figure d'ennemis héréditaires. Ils ont conclu des accords, notamment économiques, commerciaux, mais aussi de toute évidence politique avec les Ptolémées. Et ce, dès Ptolémée II, puisqu'on dispose aujourd'hui d'un papyrus que l'on connaît seulement depuis les années 2010. Il y a des sources extrêmement récentes, là, dont j'ai pu profiter. Ce papyrus, malheureusement fragmentaire, retrouvé en Égypte, évoque un grand roi, un Basileus Tonarabone, un roi des Arabes, qui est aussi un Nabatéen, Nabataios, c'est là que le terme Nabatéen apparaît pour la première fois, donc dans les années 270 environ, avant notre ère, sur ce papyrus de l'époque de Ptolémée II. Et alors on comprend, même si le papyrus est fragmentaire, même si malheureusement le nom de ce roi Nabatéen contemporain de Ptolémée II n'est plus lisible, on comprend qu'il y avait déjà un royaume très structuré dans ces années 270 avec un Nabatéen, roi des Arabes, qui est aussi le commandant des cavaliers arabes. C'est ce que dit ce fragment. Et on comprend qu'il y a là une puissance militaire qui d'ailleurs est évoquée par la suite par un autre auteur, par Flavius Joseph, qui nous parle de ces cavaliers arabes, de cette force militaire avec des cavaliers, des méharistes aussi qui montent sur des dromadaires. Alors cette puissance militaire, elle remonte à l'époque de Ptolémée II, elle est même antérieure si l'on en croit Diodore de Sicile. Ils ont cette puissance militaire qui leur a permis de rester indépendants face à ces royautés hellénistiques. Et alors, ce qu'on comprend aussi dans ce papyrus, c'est que ce roi Nabatéen, roi des Arabes, qui est à la tête d'une puissante cavalerie, est aussi très riche, puisqu'il a offert un magnifique bijou à Ptolémée II, un bijou qui fait partie de la collection des gemmes, hein, des bijoux précieux de la cour à Alexandrie. Et c'est à ce titre d'ailleurs que ce roi est mentionné, c'est parce qu'il a offert ce bijou. Et on a donc, grâce à cette source, la preuve, pourrait-on dire, que cet État nabatéen est déjà parfaitement constitué, structuré, avec une puissante armée et un puissant roi reconnu et respecté par son voisin ptolémaïque, ou l'Agide, hein, Ptolémée II.
Du coup, effectivement, on voit cet État ressurgir. Alors, puisqu'on a parlé plusieurs fois de ces sources, on va peut-être s'arrêter un peu dans l'histoire des Nabatéens et mentionner les sources qui permettent de l'écrire. C'est une des difficultés, j'imagine, à laquelle vous avez eu à faire face, à savoir qu'on a bien sûr des sources littéraires. Vous avez mentionné certains auteurs, Flavius Joseph, Théodore de Sicile, Strabon. Mais on n'a pas de récit continu de l'histoire de ces Nabatéens et vous avez dû donc faire fond sur d'autres types de sources, les monnaies, très utilisées dans votre ouvrage, des sources archéologiques, vous mentionnez en outre des découvertes assez récentes, notamment dans la fameuse Rasnais sur laquelle nous reviendrons. Pourriez-vous revenir sur les sources de cette histoire et comment vous avez essayé de tisser un récit sur la base de ces sources éparses et fragmentaires ?
Oui, alors il y a des textes en langue nabatéenne. Hein. Le nabatéen est une langue sémitique. Les Nabatéens ont repris la graphie de l'araméen d'Empire, qui était la langue de l'administration perse achéménide. Mais malheureusement, on n'a aucun texte littéraire, aucun texte religieux, aucun texte historique, mythologique, littéraire nabatéen. Ces textes ont dû exister. Malheureusement, ils sont tous perdus. Donc, on doit se contenter, enfin, en tout cas pour les sources en langue nabatéenne, de quelques inscriptions, de dédicaces, de monuments. Alors, qui sont quand même utiles, parce que ces inscriptions nabatéennes nous donnent les noms des rois, des reines, des princes et des princesses. Et ça va tout à fait dans le sens de ce que dit Strabon. On se rend compte qu'on a affaire à une dynastie qui est vénérée. C'est pas seulement le roi, c'est toute la famille, les princes et les princesses qui font l'objet de cette vénération. Mais c'est un peu décevant quand même, ces sources nabatéennes. Et donc, on a heureusement des sources grecques, de langue grecque, qui sont assez peu nombreuses. Donc, on l'a dit, Diodore de Sicile pour l'entrée des Nabatéens dans l'histoire, à la fin du IVe siècle avant notre ère. Strabon aussi, qui nous donne tout un récit assez développé sur la société nabatéenne et sur la royauté, l'importance de la figure royale. Et Flavius Josèphe, quand même, que j'avais lu sous l'angle des Asmonéens, des Juifs, d'Hérode aussi, dans mes travaux précédents, et là que j'ai relu sous cet angle-là des Nabatéens. Les Nabatéens n'intéressent pas Flavius Josèphe, a priori, puisque Flavius Josèphe a écrit l'histoire du peuple juif, mais tous les grands événements qui ont eu lieu au Proche-Orient, entre le IIe siècle avant notre ère et 70, c'est-à-dire la destruction du Temple de Jérusalem, sont évoqués très précisément par Flavius Josèphe. Et on a dans son œuvre la succession des rois nabatéens qui est clairement évoquée. Alors c'est Flavius Josèphe qui m'a permis de reconstituer cette histoire des Nabatéens grâce à la chronologie qu'il nous fournit.
D'autant que la mère d'Hérode était une princesse nabatéenne, vous le rappelez.
La mère d'Hérode était nabatéenne, Cypros, on l'oublie parfois, était apparentée de toute évidence à la dynastie des rois nabatéens. Il y a eu des moments d'alliance parfois entre les Nabatéens et les Juifs. On peut rappeler aussi par exemple que le roi Arétas IV avait marié sa fille Phasaélis au fils d'Hérode, Hérode Antipas. Il y a eu parfois des alliances matrimoniales et politiques, évidemment aussi, parce que les alliances matrimoniales servent évidemment à renforcer des alliances politiques. À d'autres moments, Juifs et Nabatéens sont parfois en guerre. Mais alors, l'autre source très importante, c'est la numismatique, les monnaies très nombreuses en bronze et en argent frappé par les souverains nabatéens. On peut souligner l'importance de ces sources numismatiques. Par exemple, les Asmonéens ou les Hérodiens ne frappent pas de monnaie d'argent. Les monnaies nabatéennes sont vraiment très nombreuses et elles sont frappées dans ces deux métaux avec parfois de très très belles monnaies d'argent. Je pense notamment à des monnaies du roi Obodas Ier, frappées dans les années 85-84 avant notre ère, qui ne sont connues que depuis quelques années, où elles sont apparues sur le marché de la numismatique. On est dans les années 85-84 avant notre ère, et on a de très belles drachmes représentant ce souverain, coiffé du bandeau royal hellénistique, le diadéma, parce que ces souverains ethniques qui se proclament évidemment nabatéens empruntent aussi les principaux symboles du pouvoir, de la royauté, de la Basileia à leurs voisins hellénistiques. Ils ne sont pas hellénistiques, mais ils sont au même niveau, enfin, c'est ce qu'ils veulent dire. C'est pour cette raison qu'ils s'approprient tous ces symboles du pouvoir. Alors ça, on le voit très bien sur les monnaies. Certaines monnaies sont frappées d'ailleurs avec des légendes grecques. C'est le cas notamment, alors cette fois, du fils d'Obodas Ier, Arétas III, qui règne au moment de cet apogée territorial de ce grand royaume nabatéen dans les années 80-70 avant notre ère. Il succède aux Séleucides à Damas. Il règne sur Damas et frappe lui aussi de très belles monnaies d'argent et de bronze avec une légende grecque. Il est dit Basileus et il est dit aussi Philélène, c'est-à-dire l'ami, le protecteur des Grecs, ce qui d'ailleurs veut dire qu'il n'est pas grec, parce qu'un souverain grec, évidemment, ne se définirait pas comme Philélène. C'est un souverain ethnique, protecteur des Grecs. Et à cette époque, on a, à l'époque d'Arétas III, donc dans ces années 80-70, un vaste royaume qui domine le sud de la Syrie actuelle avec Damas, la Jordanie, tout le quart nord-ouest de l'Arabie saoudite actuelle, le désert du Hejaz, l'oasis d'Aloula, et le sud d'Israël, le Negev, et même le Sinaï, qui appartient à l'Égypte aujourd'hui. Donc c'est vraiment un vaste royaume.
Oui, ces monnaies sont d'autant plus intéressantes, je trouve, telles que vous les utilisez, qu'elles montrent deux choses. D'une part, que les étalons monétaires choisis ont pu varier. D'abord, plutôt proche des étalons ptolémaïques, ils évoluent vers d'autres types d'étalons par la suite. Et par ailleurs, vous montrez que la plus grande période de production monétaire de ce royaume date d'après l'intégration dans l'orbite romaine et montre bien que l'histoire des Nabatéens ne s'arrête pas à la conquête romaine, mais que ce monarque Arétas IV que vous avez évoqué tout à l'heure est à la tête d'un royaume qui demeure florissant par bien des aspects.
Oui, et c'est pour cette raison qu'on peut dire, hein, me semble-t-il, qu'il y a deux apogées. L'apogée politique, la grande puissance politique sous Arétas III dans les années 80-70 avant notre ère, et ensuite l'apogée véritablement de la culture, mais d'une culture qu'on peut qualifier de royale, parce qu'elle est étroitement liée à la royauté, au roi, à la reine aussi, à l'époque d'Arétas IV, que je surnomme d'ailleurs le Grand, enfin pour faire écho à Hérode, également dit le Grand en Judée. C'est vraiment le grand souverain, alors client, comme on dit, des Romains. C'est un roi ami des Romains. Il n'est pas indépendant. Il est soumis à la puissance romaine, mais il jouit d'une grande autonomie, sans doute davantage encore que les Juifs voisins. C'est ce que sous-entend d'ailleurs Flavius Joseph, qui dit nous, enfin les Juifs, nous avons, en raison de nos divisions politiques, été soumis aux Romains, et ils sont obligés de payer un tribut très élevé, alors que les Nabatéens s'en sortent en payant des sommes nettement moins importantes. Hein. Alors c'est quand même l'empereur Auguste qui a, évidemment, en tant que... c'est lui le patron de tous ces rois clients, et c'est lui qui valide l'accession au trône d'Arétas IV. Arétas IV s'est fait dans un premier temps proclamer un peu trop rapidement au goût d'Auguste par les officiers de la cour, par les aristocrates nabatéens, et Auguste le lui reproche, mais il finit par le reconnaître quand même à son tour parce qu'il a la légitimité dynastique et parce que Auguste a bien compris que c'est très important pour les Nabatéens. Il faut que le souverain appartienne à cette dynastie vénérée. Et ensuite, ce règne d'Arétas va durer presque un demi-siècle, 49 ans de règne, hein, de 9 avant notre ère jusqu'en 40, et c'est là que sont construits les plus beaux monuments que l'on peut voir aujourd'hui à Petra, et qui font la célébrité de ce site archéologique de Petra, qui fait partie des stars mondiales, on pourrait dire aujourd'hui instagrammées, hein, en matière d'archéologie, avec notamment la fameuse Razné, qui est le monument emblématique de Petra, au débouché du Sik. Le Sik, c'est cette gorge étroite, ce défilé qui fait parfois à peine 2,50 m, 3 m de large entre deux falaises qui font 80 à 100 m de haut. Et donc on parcourt le Sik, qui est la principale voie d'accès au centre-ville de Petra, sur un peu plus d'un kilomètre. Et là, on est accueilli par la façade de ce monument tout à fait extraordinaire, appelé Razné en arabe. Hein, c'est un terme moderne qui veut dire le trésor. Et c'est une façade qui est taillée, ciselée dans la roche et qui s'élève à une quarantaine de mètres de haut. Alors, on sait aujourd'hui, grâce aux fouilles qui ont pu être menées au niveau inférieur de la Razné, parce qu'il y a le monument tel qu'on le voit aujourd'hui, mais en fait, il y a une sorte de crypte qui n'est pas d'ailleurs véritablement une crypte puisqu'elle devait être visible dans l'Antiquité. Donc un autre niveau inférieur qu'il faudrait complètement terminer de dégager aujourd'hui. Et là, dans ce niveau inférieur, ont été découverts en 2003, déjà en 2003, au moment de la guerre du Golfe, la fréquentation touristique à Petra avait chuté radicalement et des fouilles avaient été rendues possibles. Elles ont repris en 2024, au moment de la guerre à Gaza, parce que là aussi, il n'y a plus ce flot touristique qui empêche de faire des fouilles au pied de la Razné. Et on a découvert des restes humains, des restes de squelettes et des fragments aussi de céramique qui sont parfaitement datables, enfin que l'on date précisément du début du 1er siècle de notre ère, donc du règne d'Arétas IV. On a donc la preuve que la Razné a bien été réalisée donc, au début du premier siècle, disons, de notre ère.
Alors parlons justement de ce monument. Alors c'est vrai qu'il est extrêmement célèbre. Je disais en introduction que les Nabatéens sont très connus pour un certain nombre d'images. On sait que ce monument a servi de lieu de tournage, évidemment, pour le troisième Indiana Jones. Vous le dites, il apparaît aussi dans un album de Tintin. Vous développez un certain nombre de pages sur ce monument, précisément avec des suggestions tirées des découvertes récentes, pour essayer d'expliquer à qui il était destiné. Alors est-ce que vous pouvez nous revenir sur ce que vous avez développé dans le livre sur cet aspect ?
Alors ça, c'est une hypothèse que j'avance dans mon ouvrage. Il est vrai que je me suis beaucoup intéressé aux souveraines hellénistiques, aux femmes de pouvoir, et notamment à Cléopâtre. Alors ce qui m'a frappé, c'est la présence de toutes ces figures féminines dans la décoration de la Razné. Il n'y a pas d'inscription, on peut le préciser, malheureusement. La Razné est dépourvue de toute inscription, mais on peut tenter d'interpréter cette iconographie avec ces personnages féminins qui apparaissent dans la partie supérieure de la Razné, avec notamment une figure féminine centrale qui est calquée sur les représentations des reines ptolémaïques, des déesses reines ptolémaïques, telles qu'elles sont représentées par exemple sur les œnochoé, ces vases en faïence produits à Alexandrie, sur lesquels on a des représentations de d'Arsinoé II, de Bérénice II également, ces grandes reines qui étaient aussi des déesses dans l'Égypte ptolémaïque. Donc c'est le même type de représentation que l'on a dans ce qu'on appelle la tholos, c'est-à-dire cet édifice circulaire qui se trouve vraiment mis en valeur au sommet de la Razné. Et alors cette tholos, avec cette représentation calquée sur une représentation de déesse reine ptolémaïque, se trouve précisément au-dessus d'un fronton qui est lui-même dominé par une couronne Isiaque, une couronne de la déesse Isis. La couronne de la déesse Isis, cette déesse égyptienne, est constituée de cornes de vache qui enserrent un disque solaire. Alors, c'est un attribut de cette déesse qui a été repris par les reines ptolémaïques, par Cléopâtre VII, notamment la célèbre Cléopâtre qui s'identifiait à la déesse Isis. Or, on le sait depuis quelques années, dans les années 2010, sont apparues sur le marché de la numismatique des monnaies frappées par une reine nabatéenne, la reine Uldu, qui est la première épouse du roi Arétas IV. Elle est morte dans les années 16 de notre ère, puisqu'elle disparaît ensuite de la numismatique au profit d'une seconde épouse, Shakilat Ier, qui épouse le roi Arétas. Or, Uldu, sur les monnaies frappées donc au tout début du premier siècle de notre ère, est pourvue de cette coiffe de la déesse Isis au-dessus de son front. Elle est parfaitement identifiable sur les monnaies. Donc on peut faire le lien entre ces monnaies de la reine Uldu, cette reine à la coiffe isiaque sur les monnaies nabatéennes, et cette coiffe isiaque qui est vraiment au centre même de la façade de la Razné. Et je pense que c'est la clé d'entrée, en quelque sorte, de la Razné. C'est la clé d'interprétation de la Razné, cette coiffe d'Isis qui fait référence à la reine Uldu. Et ça correspond parfaitement d'un point de vue chronologique, puisque cette reine Uldu est morte dans les années 16, 16 de notre ère. Alors ça ne veut pas dire que la reine Uldu, comme Cléopâtre, s'identifiait à la déesse Isis. On a là plutôt un transfert iconographique, c'est-à-dire que les Nabatéens, les rois, les reines, se sont appropriés un certain nombre de symboles, d'attributs du pouvoir qu'ils ont jugés valorisants et qu'ils ont repris pour se mettre eux-mêmes en valeur dans l'iconographie et sur leur monnaie. Donc ça ne veut pas dire qu'Uldu a été assimilée à Isis, ni même qu'elle a été divinisée. Simplement, elle a trouvé valorisant pour elle de se faire représenter avec cet attribut, comme Cléopâtre, comme les reines ptolémaïques. Et peut-être que dans le contexte nabatéen, cette coiffe faisait référence à autre chose, peut-être à une déesse nabatéenne peut-être Al-Uzza, cette grande divinité féminine nabatéenne dont le nom veut dire la très forte. Alors, d'où mon interprétation, mon hypothèse en tout cas, je me demande si cette Razneh ne serait pas le tombeau de la reine Uldu, réalisée donc par Arétas IV dans les années 16-17 de notre ère.
Vous évoquez ici un aspect intéressant que vous avez développé aussi dans le livre, qui est votre réflexion sur le caractère très composite finalement de l'architecture, du décor nabatéen, qui emprunte à différents éléments. Vous l'avez évoqué encore là en parlant de l'appropriation de certains titres, Philadelphie, des choses comme ça. On voit bien que il y a de la part des Nabatéens des choix. Ils ont construit leur iconographie, leur culture en allant piocher à droite à gauche et en réassemblant à leur façon, à leur manière, sans qu'on sache forcément toujours ce qu'ils mettaient derrière leur propre discours iconographique.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a des emprunts, des transferts iconographiques sans forcément qu'il y ait un transfert d'imaginaire, c'est-à-dire que ce sont des manières de représenter des éléments iconographiques que les Nabatéens reprennent pour signifier quelque chose qui est forcément positif de leur point de vue, mais qui ne correspond pas forcément à la mythologie ou aux croyances des peuples chez lesquels ils ont emprunté ces motifs. Alors ça, c'est presque une sorte de paradoxe, c'est-à-dire que les Nabatéens ont créé un art extrêmement original, extrêmement nouveau. On reconnaît aujourd'hui, au premier coup d'œil, un site nabatéen, un tombeau nabatéen, mais avec des éléments empruntés à d'autres peuples qu'ils ont agencés de manière tout à fait originale. Les ingrédients, en quelque sorte, de cet art nabatéen sont empruntés aux autres peuples. On a, par exemple, les merlons. Les merlons, ce sont ces motifs en forme de pyramide à degrés ou d'escalier qui sont empruntés à l'art assyrien. On a des gorges égyptiennes, donc ces corniches que l'on trouve au-dessus des portes, notamment des temples ptolémaïques. Et puis, on a parlé du fronton de la Razneh tout à l'heure. Ce sont des frontons de type grec, triangulaire. On a des colonnes aussi, des chapiteaux à l'origine corinthiens dont s'inspirent les architectes nabatéens, mais ils vont les modifier avec parfois beaucoup d'inventivité, de création, puisque les chapiteaux corinthiens, parfois, chez les Nabatéens, on a aussi en plus, par exemple, des lions ailés ou des têtes d'éléphants qui sont ajoutées par ces architectes nabatéens. Et tout cela mis ensemble, selon cet agencement tout à fait original et dont ont fait preuve les Nabatéens, a permis de créer cet art qui est tout à fait étonnant et qui produit d'ailleurs, je pense que celles et ceux qui sont allés à Petra ne me démentiront pas, une impression assez jouissive d'ailleurs, qu'on retrouve peut-être dans l'art baroque. Hein. Ce sont des monuments extrêmement séduisants. Et
qui tire fortement parti de la scénographie, il faut dire aussi. Hein. Leur mise en scène dans l'espace est incroyable.
Une scénographie étonnante, oui. C'est-à-dire qu'on a à la fois un site extraordinaire avec ses montagnes, ses falaises, cette roche aussi à Petra, cette roche de couleur rouge, rose, traversée de veines jaunes et blanches. Ce qui fait d'ailleurs que la célèbre romancière britannique Agatha Christie, qui a écrit un roman, il y a une enquête d'Hercule Poirot qui se passe à Petra, c'est Rendez-vous avec la mort. Hein. Elle compare la couleur de la roche, du grès à Petra, avec du rose beef, de la viande crue. Et cette couleur même de la pierre a fait la célébrité, évidemment, de ce site. Donc ce sont des monuments extraordinaires dans une nature tout à fait extraordinaire, ce qui explique ce pouvoir de fascination et ce plaisir aussi que procure Petra chez toutes ces visiteuses et visiteurs du site. Et alors on peut ajouter aussi Egra, donc dans l'oasis d'Aloula, aujourd'hui en Arabie Saoudite, puisque l'Arabie Saoudite s'est ouverte maintenant au tourisme. Il est très facile de se rendre en Arabie Saoudite et on peut visiter Egra, où là, on a un univers un peu différent. Les monuments sont du même type qu'à Petra, mais on a la présence du désert, là, qui est encore plus importante, beaucoup plus importante, et puis des couleurs mielleuses, jaunes, ocres, et des monuments tout à fait emblématiques aussi, comme par exemple le Kasr Farid, qui est un extraordinaire tombeau solitaire, qui est posé là tout seul, sculpté dans une roche au milieu du désert du Hedjaz, dans cette oasis d'Aloula.
Oui, alors de ce point de vue-là, les lecteurs qui n'auraient pas encore le temps d'y aller pourront profiter des très beaux carnets iconographiques et photographiques qui sont dans l'ouvrage, où il y a de nombreuses photos en couleur qui donnent bien cette impression. Vous avez évoqué la divinité d'Alouza, et du coup, ça me conduit à cette question sur la religion des Nabatéens, que vous exposez à plusieurs reprises en mentionnant leur principale divinité, Douchara, Alouza. Un univers religieux sémitique, hein, vous parlez des Bétils, qu'on pourrait trouver dans le monde phénicien. Et j'aimerais bien que vous en disiez quelques mots de plus, et surtout d'un auteur que vous mentionnez à un moment en parlant de la religion, Épiphane de Salamine, un auteur que j'ai découvert grâce à vous, qui fait une description assez... Alors, un auteur beaucoup plus tardif, hein, c'est un auteur du 4e siècle de notre ère, mais qui fait une description assez fascinante de la religion nabatéenne, et notamment qui fait une analyse étonnante de Douchara.
Oui, on est évidemment très content d'avoir aussi quelques auteurs byzantins, qui avaient pu lire des ouvrages sur les Nabatéens qui ont aujourd'hui disparu. Donc il y a effectivement ce théologien Épiphane de Salamine, on pourrait ajouter Étienne de Byzance, Suidas aussi, qui nous donne des éléments extrêmement intéressants, alors notamment sur la religion, parce que c'est un sujet qui a intéressé ces auteurs chrétiens. Alors Épiphane de Salamine a notamment remarqué que la conception virginale, finalement, elle existait déjà dans la tradition nabatéenne, pas seulement chez les chrétiens. Donc il se sent un peu obligé d'expliquer dans son ouvrage que les nabatéens, ce sont des hérétiques d'une certaine manière. Hein. Le culte de Douchara est une hérésie. Donc il dit aux chrétiens, les nabatéens croient ou affirment que leur dieu Douchara est le fils de Lacha Amou, une vierge, et il fête la naissance de leur dieu, donc c'est un peu l'équivalent de Noël pour les Nabatéens, la naissance de ce dieu Douchara, né d'une vierge. Et au passage, on apprend d'ailleurs que ce Noël de Douchara est fêté non seulement à Petra, mais aussi dans une ville nabatéenne du sud du Negev, aujourd'hui en Israël, et à Alexandrie également, où se trouvait une importante communauté nabatéenne. Donc ça, évidemment, c'est un passage assez court d'Épiphane de Salamine, mais extrêmement intéressant, puisque c'est le seul élément, on pourrait dire, mythologique que l'on possède sur cette grande divinité nabatéenne Douchara. Et alors, l'iconographie de ce dieu est intéressante également, enfin, ce que l'on croit en tout cas en percevoir à travers des représentations divines retrouvées à Petra, c'est un dieu qui est surtout en fait une grande puissance ressentie comme masculine, mais qui peut être de toute évidence représentée à la fois comme un père et comme un fils. Et quand les Nabatéens, qui au départ n'ont pas d'iconographie divine, contrairement aux Grecs, puisqu'ils rendent un culte à des pierres dressées, à des bétiles, ce qui est évidemment une caractéristique, comme vous l'avez dit, sémitique, qu'on retrouve chez les Phéniciens, mais aussi dans la religion d'Abraham et puis de Moïse dans la Bible. On se souvient de la pierre de Jacob, par exemple. Hein. Jacob dresse une pierre en un lieu appelé Bethel. Bethel veut dire la maison de Dieu en araméen. Donc on a ces pierres dressées dans lesquelles on pense que réside la divinité. Alors, donc les Nabatéens adoraient ces pierres, ces bétiles, mais ils ont aussi voulu, dans un second temps, développer une iconographie de type grec de leur divinité. Et c'est là qu'on se rend compte de la complexité de ce grand dieu Douchara, puisqu'il est représenté à la fois comme un dieu barbu, à la manière de Zeus, en tant que principal dieu nabatéen. On l'a comparé à Zeus, maître de l'Olympe, mais en tant que divinité de la régénération de la nature, il est aussi présenté comme un jeune dieu, comme une sorte de Dionysos. Et donc c'est à la fois un dieu père et un dieu fils. En fait, c'est pas un dieu de la mythologie grecque, hein, c'est pas un dieu comme un dieu grec avec sa personnalité, avec ses désirs, ses goûts, enfin comme on le voit pour Zeus par exemple, hein, pour lequel il y a plein de nombreux récits, il a des maîtresses humaines, il a toute une histoire. Les dieux nabatéens, de toute évidence, sont des grandes puissances, des puissances divines, des puissances célestes, des puissances liées à la nature. Donc il y a cette grande puissance ressentie comme masculine qui est honorée dans un grand temple qui se trouve au centre de la ville basse de Petra, donc un temple monumental construit en pierre, parce que l'architecture nabatéenne ne se résume pas à ses façades taillées dans la roche. Il y a aussi toute une architecture de pierre. Et c'est dans ce temple, ce grand temple au centre de Petra, vers lequel menaient toutes les voies, on pourrait dire, du royaume nabatéen. Il a vraiment une position centrale que se dressait le Bétyle, alors qui est évoqué par un autre auteur byzantin, cette fois, Suidas, qui nous parle d'une pierre noire dressée, peut-être une météorite, considérée donc comme l'objet le plus sacré dans le temple de ce dieu. Et on a aussi une divinité féminine, c'est-à-dire que les nabatéens ont aussi conçu la divinité comme sous une forme féminine. Il y a une grande puissance masculine d'Ushara, une grande puissance féminine qui est appelée Al-Uzza, ce qui veut dire la très forte. Et elle est représentée, elle aussi, symboliquement sous la forme de Bétyle. On a des Bétyles assez originaux, avec le début d'une iconographie, avec des yeux qui sont représentés, parfois une bouche, un nez, et des statues aussi de type grec. Al-Uzza a, de toute évidence, aussi été représentée comme une Aphrodite. Enfin, on le sait d'ailleurs parce qu'il y a une inscription bilingue gréco-nabatéenne retrouvée dans l'île de Kos. Dans la version nabatéenne, la déesse est dite Al-Uzza, et Al-Uzza est traduit par Aphrodite dans la version grecque. Donc elle est assimilée à Aphrodite, et elle a aussi vraisemblablement été assimilée à Isis, et elle a repris d'ailleurs dans son iconographie la coiffe isiaque qu'on a déjà évoquée tout à l'heure. La coiffe isiaque est représentée au centre d'une couronne de feuillage gravée au sommet d'un Bétyle, qui est de toute évidence un Bétyle de cette grande déesse Al-Uzza.
Alors c'est tout ça remonte encore une fois à la richesse de cette culture et la richesse de ce peuple. Alors on a parlé de cette richesse, mais on en a pas évoqué la source. Alors vous l'avez évoqué un petit peu en rappelant la position géographique extraordinaire de ce royaume, hein, à la frontière de la plaque arabique et de la péninsule arabique et de la péninsule du Sinaï, donc à un carrefour en fait commercial. La richesse de ce peuple, c'est le commerce de certaines denrées bien particulières, qui fait qu'on le trouve aussi, ce peuple, non seulement évidemment dans son royaume, mais vous l'avez mentionné, aussi ailleurs en Méditerranée. Vous avez parlé de Kos et d'Alexandrie, mais il y en a à Pouzol, il y en a à Rome, et ce sont des maîtres marchands, et c'est sur ça qu'ils ont construit leur prospérité.
Oui, ce sont des marchands et des voyageurs. L'univers, on pourrait dire, des Nabatéens, il s'étend du sud de l'Inde actuelle jusqu'à l'Italie. Alors, dans un premier temps, ils se sont enrichis grâce au commerce des aromates, c'est-à-dire qu'ils vont chercher dans le sud de la péninsule arabique, en Arabie heureuse, le Yémen actuel, les aromates, la myrrhe et l'encens qui sont produits dans cette région. C'est une résine que l'on extrait du tronc de certains arbres. On fait ensuite sécher cette résine que l'on l'on transporte sous la forme de grains dans des amphores qui sont placées sur le dos de chameaux. Et alors ces aromates donc sont transportés par les Nabatéens du sud de l'Arabie jusqu'à Gaza, jusqu'au port de Gaza qui était le port des Arabes et des Nabatéens, et c'est depuis Gaza que les aromates sont expédiés vers le monde grec, puis vers l'Italie. Parce que la consommation en myrrhe et en encens ne cesse de croître à l'époque hellénistique et romaine, dans le monde grec et puis dans le monde romain, il paraît impensable de rendre un culte aux dieux sans y associer quelques parfums venus d'Orient. La myrrhe, l'encens deviennent une sorte de symbole olfactif, on pourrait dire, du sacré. D'où cette demande qui ne cesse de croître, et ça explique cette extraordinaire richesse des Nabatéens qui font des profits, des plus-values énormes sur la vente de ces aromates. Et alors, ils ne font pas d'ailleurs que convoyer ces aromates à dos de chameaux. Ils se font aussi marins dans un second temps. Ils prennent la mer et se rendent notamment en Italie où on a les restes, enfin les vestiges qui ont été retrouvés à Pouzole, donc à l'ouest de Naples, d'une importante communauté nabatéenne avec des inscriptions, des dédicaces à Douchara qui ont été retrouvées à Pouzole. On a aussi des inscriptions retrouvées à Rome, donc des commerçants, des diplomates également nabatéens. Le roi nabatéen Arétas IV avait forcément des ambassadeurs à Rome qui représentaient ses intérêts auprès d'Auguste. Donc c'est vraiment un peuple de commerçants, de voyageurs, et ils vont de toute évidence jusqu'en Inde, puisque certaines sources parlent également de diverses formes de cannelle, la casse et le cinnamomum en grec, cinnamum, qui sont deux formes de cannelle produites dans le sud de l'Inde. Ils transportent aussi quelques objets très rares et précieux, dont raffole l'aristocratie romaine, des objets en ivoire provenant du sud de l'Inde. On a retrouvé une très belle statue d'une divinité indienne à Pompéi. Elle est sans doute passée par Petra. D'ailleurs, on a retrouvé à Petra une autre statuette à peu près semblable lors des fouilles menées dans un sanctuaire de Petra. Une statuette en ivoire représentant une femme dénudée, une divinité venue du sud de l'Inde. Donc ça prouve qu'il y a eu ces relations commerciales dans ce
Oui, vous évoquez même la découverte d'un Bouddha très récente sur un port égyptien de la mer Rouge.
Oui, qui est d'époque romaine, mais qui effectivement qui prouve qu'il y a aussi des Indiens d'ailleurs qui sont installés dans ce port, en l'occurrence le port de Bérénice sur la mer Rouge. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas que les Nabatéens évidemment qui sont les acteurs de ce commerce. En fait, ils collaborent avec des Égyptiens, on l'a dit, avec les Ptolémées, avec d'autres peuples arabes aussi, les Minéens par exemple. C'est un peuple du sud de l'Arabie, mais certains Minéens sont installés dans l'oasis d'Aloula et participent à ce transport. Le roi des Nabatéens est dit d'ailleurs roi des Arabes par diverses sources.
Oui, d'autant que vous insistez bien sur le fait qu'à sa plus grande extension territoriale, ce royaume ne domine pas que des Nabatéens.
Les Nabatéens sont même minoritaires. Le roi des Nabatéens et aussi le roi des Arabes. Arabes, c'est le terme générique qui remonte aux textes assyriens qui mentionnent les Aribis. C'est là que sont mentionnés pour la première fois les Arabes au 9e siècle avant notre ère. Et ensuite, le terme a été repris par les Grecs. Le mot arabe apparaît notamment dans l'œuvre d'Eschyle, les Perses d'Eschyle. On a un arabe qui est mentionné. Il se bat du côté des Perses. Donc, arabe est un terme générique, comme gaulois, par exemple, et nabatéen, c'est comme les Arvernes, par exemple, c'est un des peuples, c'est le peuple le plus prestigieux à l'époque parmi les peuples arabes, et le roi nabatéen est aussi le roi d'autres peuples, d'autres peuples arabes, et il y a aussi des Syriens hellénisés, d'ailleurs, dans le royaume nabatéen. C'est pas que des Arabes. Quand les Nabatéens règnent sur Damas, par exemple, ils règnent aussi sur des Grecs, d'où le titre qu'on a évoqué tout à l'heure de Philhellène, porté par Arétas III. Donc c'est un royaume multiethnique, d'une certaine manière, qui est dominé par le roi nabatéen.
Alors ce royaume, bah, malgré tout, il va finir par disparaître en 106. La royauté, sans cesse de notre ère, la royauté nabatéenne va être supprimée par l'empereur romain. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet effacement et sur, du coup, la disparition, petit à petit, ensuite, de cette culture? Vous mentionnez que la dernière inscription en nabatéen, à l'heure actuelle datée, date du milieu du IVe siècle, à peu près.
Oui, alors le royaume nabatéen est devenu un état client, un état ami, vassal des Romains, à partir de la conquête romaine par Pompée, hein, donc vers 63-62, avant notre ère, à l'époque d'Arétas III. Et ces états clients sont transitoires dans le monde romain. À l'époque où Trajan devient empereur, donc en 98 de notre ère, le royaume nabatéen est quasiment le dernier des royaumes. Enfin, il sera d'ailleurs au début du deuxième siècle de notre ère, le dernier des royaumes, puisque celui d'Agrippa II, un des descendants d'Hérode, enfin, qui meurt vers 101 de notre ère. Donc on peut dire que Rabel II, le dernier roi nabatéen, au début du IIe siècle, est le dernier des rois clients. Il est temps de mettre fin à cette royauté du point de vue des Romains et de transformer la Nabatène en province, en provincia Arabia. Et ça se fait sans heurts. On comprend bien que c'est programmé, préparé par Trajan, sans doute depuis son accession à l'Empire depuis la fin du 1er siècle avant notre ère. Ça fait sans doute partie d'un dispositif pour renforcer l'Empire romain avant l'expédition militaire que Trajan a programmée contre l'Empire parthe. Alors, il attend la mort de Rabel II en 106 pour transformer l'Arabie en province. Et là, rapidement, la civilisation nabatéenne disparaît parce que elle est liée à la royauté. C'est une culture royale, en quelque sorte, hein, étroitement liée à cette grande dynastie prestigieuse qui a fait construire tous ces grands monuments. C'est aussi le roi nabatéen qui était le principal intermédiaire entre son peuple et le grand dieu Dushara. Donc on voit décliner rapidement Petra, qui n'est même plus d'ailleurs la capitale de cette province. Les Romains préfèrent Bosra, au sud de la Syrie. Le culte de Dushara est encore attesté à l'époque de l'empereur Philippe l'Arabe, donc au milieu du IIIe siècle de notre ère. Et c'est là que disparaît la civilisation nabatéenne. Alors l'écriture ne disparaît pas tout de suite. L'inscription que vous avez mentionnée, là, c'est une inscription qui est une épitaphe d'un roi lakhmide. Donc ça n'a plus rien à voir avec les nabatéens, une inscription du début du IVe siècle de notre ère, qui est au musée du Louvre aujourd'hui. Mais alors, qui est intéressante du point de vue de la graphie, parce que selon l'interprétation que l'on en donne, cette inscription donc du début du IVe siècle de notre ère est la dernière inscription en graphie nabatéenne ou la première inscription en graphie arabe. C'est-à-dire que la graphie nabatéenne est l'intermédiaire entre l'araméen et l'arabe. Donc ça, c'est très intéressant de ce point de vue-là.
Christian-Georges Fensel, merci beaucoup pour ce rapide panorama dans ce très riche livre, qui, je l'espère, aura donné envie à de nombreux lecteurs de se plonger plus en détail dans cette passionnante et foisonnante société nabatéenne à laquelle vous avez essayé de rendre vie. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, merci à vous.